Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Ces derniers jours, l'actu en gilet jaune sur les fronts social et politique a éclipsé un grand événement national d'un tout autre genre, la sortie tant attendue du nouveau disque de Michel Polnareff après au moins 28 ans, c'est-à-dire près de 3 décennies d'attente. On en parle ce matin avec l'auteur, compositeur et interprète Bertrand Burgala, un fan de Michel Polnareff puisqu'il a déclaré un jour que son rêve était de produire Michel Polnareff. Le réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast de l'émission disponible sur iTunes ou en passant par l'application de Radio France. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la coordination, Corinne Amar, et ce matin à la console technique, Julien Doumenc.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Nous sommes en 2018 et vous écoutez la musique de Michel Polnareff. Enfin, avec un point d'exclamation, c'est le titre du dernier disque du chanteur. Un titre qui porte bien son titre parce qu'on l'a dit, cela fait 28 ans qu'on l'attend. Enfin, quand je dis qu'on l'attend, que les fans du chanteur attendent avec impatience. Et vous en faites partie, Bertrand Burgala.
Écoutez, je ne sais pas si je me définirais comme un fan parce qu'un fan peut être parfois méchant et exigeant. Et moi, je ne suis pas un juge. Je trouve qu'on fait tout, on est tous sur Terre pour faire de notre mieux. Et donc jamais je me permettrais, d'avoir un jugement péremptoire, mais disons que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Michel Polnareff et pour ce qu'il fait, et je trouve que...
Et vous attendiez ce disque
J'étais un peu surpris, mais en tout cas, c'est une très bonne surprise pour moi, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il a un peu vaincu ses sortilèges, qu'il est sorti d'un enfermement intérieur, d'une certaine façon. Et je trouve que c'est assez... c'est louable et c'est appréciable. Et je trouve que dans ce disque, il y a de tout, mais je trouve ça génial qu'il fasse ça. Moi, ça me fait très plaisir, en fait.
Ce titre s'appelle Fantôme, il ouvre donc cet album, enfin, chez Universal Music France. Le précédent disque de Michel Polnareff remonte à 1990, hein, Kama Sutra. Et depuis, silence, il est retiré à Los Angeles. Quand il accepte de se produire en public, c'est une fois tous les 10 ans et pas plus. C'est toujours avec des dates annulées au dernier moment, des sorties de disques sans cesse repoussées, des coups médiatiques, des plus cocasses, mais toujours très calculés, tout pour entretenir le mythe d'un chanteur culte ou d'une star de la variété adulée par un public fidèle. Enfin, quand je dis public, ça ressemble plutôt à une communauté qui fonctionne comme une secte. Hein. Les fans sont des moussaillons, Polnareff et leur amiral autodésigné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bertrand Burgala, le phénomène Michel Polnareff?
Moi, je pense qu'il faut le regarder. Quand j'ai écouté cet album, je me suis dit, mais on a affaire. C'est un peu comme, vous savez, des enfants un peu trop doués à l'école qui, tout d'un coup, font plus grand chose, se désintéressent. Et je trouve que c'est quelqu'un, quand on l'écoute, on voit que c'est quelqu'un quand même de très doué, qui a, en fait, c'est un jazzman. Quand on entend l'album, il y a des harmonies, il y a des choses qui rappellent beaucoup plus le jazz. Et je pense que sa difficulté dans l'époque, c'est qu'à partir des années 80, jusque là, au début, il avait des collaborateurs, il pouvait échanger avec des gens qui avaient à la fois un savoir-faire et une certaine esthétique. Vous voyez, le premier morceau rappelle Michel Colombier quand il travaillait avec Colombier, mais c'était des sparring partners de qualité quand on travaillait avec Michel Colombier, avec Jean-Loup Dabadie, avec Jean-Claude Vanier, avec Jean Bouchetti. C'était des musiciens, des auteurs formidables. Et puis, après, il s'est retrouvé, je pense, dans un monde qui était assez médiocre, qui était celui de la grande variété des années 80, fin des années 80, 90. C'était plus des arrangeurs, c'était des réalisateurs, des espèces de types qui passaient trois jours sur un son de grosse caisse. Et donc, je pense qu'il s'est noyé dans ce truc-là, mais aussi, c'est un peu comme avec les enfants, on pense toujours que c'est les autres, c'est les mauvaises fréquentations, mais je pense que cette industrie, moi, je les ai vus, ces gens-là, aller boire des coups avec lui à l'époque, et je pense qu'il n'avait pas les échanges qu'il aurait pu avoir avec des directeurs artistiques qui pouvaient le comprendre, parce que tout d'un coup, c'était des directeurs artistiques avec lesquels ils pouvaient même pas parler de musique, ils étaient pas musiciens, ils n'y connaissaient rien. Donc je pense qu'il s'est enfermé peut-être dans son personnage, il s'est noyé là-dedans, mais il a fait de mal à personne, et je trouve que...
Mais pourquoi on continue à parler de Michel Polnareff comme si c'était un mythe?
Parce que je pense que de cette génération, c'est un des seuls, peut-être avec Françoise Hardy aujourd'hui, qui a vraiment fait des chansons, qui a fait un répertoire, qui n'était pas uniquement un interprète, et qui est encore là, qui continue de faire des choses. Et ce qui m'a plu dans ce disque, c'est un mélange. Il y a des trucs... Et moi, d'abord, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, des choses de mauvais goût. Mais je trouve ça très bien. Il y a des solos de guitare, mais si on fait un répertoire... Mais on s'en fout. C'est pas important d'avoir bon goût. On est dans une époque où il faut que tout soit bien, tout soit parfait. Et je trouve qu'il y a des imperfections, mais il y a aussi des moments, on voit qu'il essaye de bien faire, et qu'il essaye de mettre la barre où il s'est pas mis tout d'un coup à vouloir suivre la mode du moment. Je pense que la pire des choses pour des gens comme ça, qui se laissent prendre dans la légende, c'est de vouloir refaire ce qu'ils ont fait, et ou alors de vouloir suivre la mode du moment, et dans tous les cas, c'est raté. Là, je trouve qu'il est... Moi, je rêve, je me dis, mais peut-être qu'il... Maintenant, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui sort de prison, quoi. Il faudrait qu'il... Peut-être qu'il va faire deux albums dans l'année, mais ça me paraît pas infaisable. Mais je trouve que ce qui est intéressant à travers lui, c'est de voir aussi la dérive de cette industrie, qui pendant des années l'a laissé faire, mais parce que je pense qu'il était complètement... les fréquentations qu'il avait, les musiciens, étaient pas du même tonneau. Donc il se retrouvait à Los Angeles avec des types qui jouaient un peu jazz-rock, qui étaient des bons techniciens, mais qui avaient pas forcément non plus d'âme derrière.
Enfin, il a joué avec Jimmy Page, hein, c'est pas rien.
Oui, mais Jimmy Page, il a fait 20 000 séances à l'époque. Et c'est pas du tout... Bien sûr, on dit toujours il a joué avec Jimmy Page, c'est un musicien de studio au début de Jimmy Page. Mais je trouve que ce qu'il y a de plus fort, remarquable chez Polnareff, c'est qu'il a travaillé avec de très très bons musiciens, y compris en France, qui étaient des orchestrateurs, qui étaient moins prestigieux que Jimmy Page, mais c'est un bon musicien, Polnareff.
Mais enfin, Bertrand Burgala, qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Michel Polnareff? Est-ce que vous avez vraiment eu une période où vous écoutiez Michel Polnareff en boucle? Est-ce que c'est son image? C'est comment il a...
Non, mais je trouve que l'image
a affronté le passage du temps. C'est quoi?
Non, je trouve que moi ça me touche, y compris dans les maladresses. Je trouve que en France, il y a plusieurs strates en France et dans la chanson. Il y a eu une chanson très classique, mais dans les gens qui ont réincorporé, disons, des choses plus issues du rhythm and blues ou de la pop, etc., Polnareff, c'était quand même un de ceux... Ça a été un passeur, un peu comme Gainsbourg, de ce point de vue-là. Après, je trouve que dans les premiers, vraiment, dans les premiers morceaux, il y a quelque chose. Mais lui-même, il a ce background, c'est un très bon pianiste, c'est un musicien. Et ce qui est marrant, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce blocage. Il y avait une peur, je pense. C'est-à-dire que quand on a été un peu mythifié, etc., c'est très inhibant. Des gens comme moi je fais des disques, mais à chaque fois, si je me dis, il faudrait que ça soit mieux que le disque précédent. Mais j'ai pas une espèce de peur. Je suis perfectionniste, mais j'essaie que ça m'émigre pas complètement. Et je pense que chez Polnareff, il y a plein de facteurs, mais je trouve incroyable qu'il soit sorti quand même de cette espèce, ouais, de malédiction, de sortilège, mais qui est interne.
Alors, je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais moi, dans cet album, un album plutôt très court, hein, avec très peu de morceaux, certains, on les avait déjà entendus, les réarrange ou les réorchestre. Mais ce qui est bien, ce sont les instrumentaux, parce que une fois qu'on se met à écouter les paroles de Michel Polnareff, Bertrand Burgala, on peut juste dire que c'est juste pas possible aujourd'hui ce qu'il raconte.
Écoutez, mais parce que, oui, je sais, il y a des trucs genre...
Ophélie n'est jamais seule dans son lit, toujours besoin de nouveaux amis, manque plus que tous les animaux du zoo,
qui est sympathique.
Le Tour de France, les avions, les trains... Non mais attendez, mais c'est-à-dire même au énième degré, ça ne nous fait pas sourire.
C'est là où je trouve que c'est très symptomatique de l'époque. C'est pas lui, ça, c'est cette industrie, c'est-à-dire que ça fait... Il y a 25 ans... que j'aurais aimé travailler avec lui, non pas parce que je pense être meilleur qu'un autre, etc., mais parce que je pense que je comprends le cahier des charges. Et je pense que effectivement, il y a un problème aussi, c'est de trouver aujourd'hui des paroliers, des auteurs qui soient de qualité. Et cette industrie, elle n'a pas généré de ces 20 dernières années des grands auteurs, malheureusement. En tout cas, lui, il en a pas profité. Mais c'est pas grave. Il y a des, bien sûr que les instrumentaux sont bien, mais c'est là où c'est un symptôme, comment dire, cette espèce d'aboulie dans laquelle il a été pendant un moment. Je pense que c'était un symptôme parce que c'est quelqu'un de sensible, qui est doué, mais qui s'est laissé complètement à un moment prendre dans ce personnage et dans cette industrie qui lui tapait sur l'épaule en disant génial et tout ça. Je pense qu'il n'a pas eu en face des personnes qui puissent lui apporter, le débloquer d'une certaine façon et l'aider à vaincre ses angoisses, parce que c'est des angoisses personnelles. Donc pendant des années, il disait qu'il voyait mal, qu'il avait des choses, enfin il y avait 10 000 trucs. Je trouve qu'humainement, c'est une aventure incroyable, ces 30 années. Alors, vous savez, Pierre Barou disait la devise des 10 Sarava, c'était il y a des années, on a envie de rien faire. Pierre Barou, il passait un an sans rien faire. Mais là, c'est vrai que 28 ans, c'est pas mal. Mais je pense que c'est pas qu'il ait rien fait pendant 28 ans. Et c'est moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer maintenant, en fait. C'était parce qu'il y a eu ça, des gens comme Brian Wilson a eu ça pendant un moment. Il y a eu un moment dans les années 80, il a fait 80-90, il a fait plein de morceaux qui sortaient jamais, Brian Wilson. Et puis après, il a eu un psychanalyste, d'ailleurs qui lui a tout pris, mais qui l'a remis un peu au travail, il a refait des choses. Mais c'est assez fréquent, et en tout cas... Si on compare avec Johnny, il n'avait pas ce problème-là parce que il arrivait, il y avait des gens derrière qui avaient sélectionné les morceaux. Il arrivait en studio, il les chantait. Au revoir, monsieur. C'était terminé. Polnareff, c'est pas le même engagement.
Allez, on va écouter un autre titre de ce dernier album de Michel Polnareff. Enfin, avec un point d'exclamation.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Sapin éteint, les bouts. Casse au son des peaux. Les parents dorment indifférents. Fait noir dedans et blanc dehors. J'ai faim, j'ai froid, j'ai peur, je pleure.
Oh,
Les dernières nouvelles de Michel Polnareff, 74 ans, extrait de son dernier album. Enfin, c'était L'Homme Rouge. Alors, quelques critiques, Bertrand Burgala, hein, par exemple Bruno L'Esprit, ouais. Dans Le Monde. Polnareff signe un album ni catastrophique, ni réussi, mais dont le principal mérite est de ne pas être banal. Son incohérence, son instabilité chronique, son mépris du diktat de la modernité par Enfin, donc son dernier album, d'un certain charme. Vous dites tous la même chose, c'est-à-dire, il est peut-être pas terrible cet album, mais on est très content. On est très content qu'il ne soit pas formaté. On est très content que Michel Polnareff nous donne des nouvelles. Vous le dites
j'oserais pas dire qu'il est pas terrible parce que si vous voulez. Quand on n'est pas sur le terrain, mais franchement, des morceaux comme ça, je trouve ça beau. Et il y a un côté complètement Phil Spector, enfin, c'est-à-dire que c'est complètement Housser Arbour de l'époque, et c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est que aujourd'hui, on est dans une époque de minimalisme où, en général, dans un morceau, il y a très peu d'éléments. Il y a juste une batterie, une voix, quelque chose. Là, il y a une somme d'arrangements. C'est un millefeuille où il essaie, c'est surcompressé. D'ailleurs, il y a peu de dynamique parce qu'il essaie de mettre tout à fond. Et ça, je trouve ça touchant aussi. C'est-à-dire que cette espèce de volonté, tout d'un coup, du type qui sort, il veut tout mettre. Et là, dans un morceau comme ça, il y a des strates, il y a les cordes, il y a les cuivres. C'est incroyable.
Et il y a sa voix. Comment vous trouvez sa voix?
Ben, je trouve justement que sa voix, je rigolais. Franchement, moi, je suis bon public. J'aime beaucoup Johnny, mais quand j'entendais les trucs du dernier album de Johnny, c'est incomparable. Là, sa voix, elle est vachement bien. Quand on nous disait la voix de Johnny, toujours aussi magnifique et tout ça, mais c'était quand même une blague. Enfin, on est à la limite de. Enfin, ça peut, je pense, ça peut se plaider au pénal comme escroquerie de raconter des trucs comme ça. Alors que là, non, c'est pas le cas. Je trouve que. C'est vraiment c'est pour ça que j'ai l'air d'être bon public comme ça, mais je vous assure, moi en tout cas, un morceau comme ça, je serais content d'en faire un comme ça tous les jours, des morceaux comme le premier, comme Fantôme, je me dis c'est bien. Et encore une fois, je suis obligé d'être humble parce que moi j'ai fait beaucoup de disques, mais j'ai jamais réussi à faire un truc qui reste d'une façon comme ça, qui marque comme certaines chansons de Polnareff.
Et c'est assez. Alors vous louez la liberté artistique de Michel Polnareff, mais pour cet album, il a essayé quand même de reproduire le schéma de son album mythique, Polnareff.
Il vaut mieux qu'il s'inspire de ça que...
Et de lui-même.
Ouais, je trouve que c'est bien qu'il... Mais je trouve ça marrant qu'il reparte de là, si c'est le cas. C'est tellement difficile, de pas être inhibé, justement. Moi qui connais plutôt le demi-succès ou le succès d'estime, il y a un côté presque protecteur là-dessus. Des types comme lui, on se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est, effectivement, ça n'a pas été des dieux vivants. Mais on les a mis... C'est là où les entourages sont mauvais. C'est-à-dire que, par exemple... moi, je me souviens, il y a 25 ans, j'avais fait un tribute pour Sony, pour sa maison de disques, pour lui. Il avait une manageuse qui était très importante pour lui, qu'il aimait beaucoup, mais qui rendait tout impossible. C'était un cauchemar. Mais en voulant le protéger, elle l'isolait. Donc, vous avez aussi tous ces... C'est très difficile, parce que personne ne lui parlait en direct. Enfin, il y avait quelque chose de...
Vous n'avez pas réussi à lui parler, vous, Bertrand Bergala?
Moi, j'ai jamais
rencontré... Même pas au téléphone? Parce...
Non.
Là, il a consenti à répondre par téléphone à quelques journalistes, là, pour la sortie d'enfants.
Oui, j'ai vu.
Et de très loin. Hein.
Écoutez, moi, je trouve que voilà, c'est des espèces de... Je trouve tout ça, en fait, assez sympathique et assez touchant, parce que je pense que ces caprices, ce qui peut passer pour des caprices, pour des lubies, la première victime, c'est lui-même, pendant des années, peut-être. C'est dur, tous les jours, de se dire, je vais faire un morceau et puis que ça sort pas. C'est quand même frustrant. Moi, voilà, c'est ça que je trouve réjouissant, parce que on est dans une époque où... En fait, quand on fait un disque, c'est toujours tentant de pas le sortir. Parce qu'on se dit, ça va être le grand chef-d'œuvre inconnu. Et il y a eu plein de précédents, Prince avec le Black Album. Et souvent, les artistes peuvent s'enfermer dans quelque chose comme ça.
Lui-même, il a essayé de faire un disque disco se cachant derrière un pseudo. Michel Polnareff, vous s'en souvenez, bien sûr.
Mais Lipstick, il l'avait signé, non?
Non.
Non,
moi je savais pas. On l'a su après
coup.
Un
disque.
Et qui n'a pas marché parce qu'il l'avait pas signé.
Enfin, ça marche mieux que mes productions, hein, je peux vous dire. Mais voilà, je trouve que c'est... je trouve que je serais culotté de faire la fine bouche et de dire, ah ben moi j'aurais mis comme ça. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant aussi, aujourd'hui on est dans une époque de bon goût où tout doit être parfait, parce que d'une certaine façon, la personne qui choisit est plus valorisée que celle qui crée. C'est-à-dire que c'est celle qui va choisir la musique pour le défilé de mode qui va être bien payée, mais le musicien dont on va mettre le disque sera pas payé. Et donc, cette notion de choisir, d'avoir du bon goût, et c'est très amplifié par les réseaux sociaux, où on dit j'aime ça, on met des petits cœurs ou pas. Et je trouve que le fait de s'en foutre, de tout d'un coup de mettre des guitares que même Billy Idol ose plus faire depuis 25 ans, etc., je trouve ça bien. C'est une forme de liberté aussi. Et la musique, bah oui, on fait ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que s'il peut aller vers ça, même à 74 ans, bah, c'est bien. Ça
alors,
fait plaisir.
Bertrand Burgala, c'est qui le public de Michel Polnareff? Qui sont les moussaillons? Parce que vous dites ça, mais son public, lui, il lui pardonne tout. Ils attendent ses concerts, ils attendent la sortie de son album. Ils peuvent bien attendre 28 ans, se contenter de quelques cartes postales sonores. Qui sont-ils, ces gens?
J'en sais rien, mais moi, je trouve que c'est bien. Et en tout cas, ils ont eu raison d'attendre. Moi, c'est-à-dire, je trouve qu'il faut faire attention avec avec les comme ça, de pas être condescendant, parce que effectivement je trouve qu'il y avait il y avait quelque chose qui peut paraître je trouve que cette fidélité, cet attachement, il y a un truc qui est intéressant là-dessus, je trouve, c'est que les vedettes populaires comme ça, eh ben, elles ont une fidélité que les chanteurs branchés n'ont pas, parce que il y a une notion de statut social chez le chanteur dit exigeant, etc. On achète, vous voyez, les gens qui achetaient les disques de Björk parce que ça faisait bien il y a 20 ans, je pense que tous les jours, ils sont pas aujourd'hui à envoyer des tweets à Björk,
ils
sont passés à autre chose.
C'est quoi sa place entre Michel Sardou et Nino Ferrer, par exemple, Michel Polnareff?
Bah, c'est pas mal, c'est un peu entre les deux, c'est un mélodiste quand même, enfin, c'est un mélodiste, il a fait quand même des chansons assez remarquables et mémorisables, et il avait une place tout à fait particulière, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y avait des textes de qualité, parce qu'il a eu des très bons auteurs, mais c'était musicalement, c'était bien. Et encore une fois, en écoutant ce disque, je me suis dit, parce qu'on voit que c'est composé au piano et tout ça, mais qui a un côté jazzman. Et ce côté-là, il est assez à rebours. En fait, il y a aussi une chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on est dans une époque, et c'est pour ça que cette époque, elle est pas mauvaise pour lui, parce que il y a eu un retrécissement de la musique, évidemment, à l'époque de Maître James et tout ça, ça peut paraître anachronique, mais c'est ça qui est bien, parce qu'en même temps, vous avez des générations maintenant de jeunes musiciens de 20-25 ans, qui sont des très bons musiciens, qui écoutent du jazz, qui écoutent d'autres choses, qui peuvent être sensibles aussi à de la chanson, mais à condition qu'il y ait des canevas qui sortent un peu du tout venant. Et je trouve que de ce point de vue-là, lui, il va au-delà de cette espèce de chanson un peu tristoune, avec juste trois accords qui sont toujours les mêmes. Et je trouve que voilà, un peu de changement harmonique, un peu de progression harmonique, ça fait pas de mal. Et il y en a dans ses chansons.
Enfin, c'est le dernier album de Michel Polnareff, sorti la semaine dernière. Vous restez avec nous, Bertrand Burgala. Cette fois-ci, on va parler de vous et de votre vie avec Michel Polnareff. Vous avez choisi cette chanson pour raconter votre rapport charnel avec ce chanteur, Holidays. Alors Bertrand Burgala, la première fois que vous avez entendu Michel Polnareff, vous aviez quel âge? Vous deviez être très très jeune.
Ouais, je devais être jeune. Je suis né en 63. Je pense que j'ai dû le voir un dimanche après-midi chez Michel Drucker en train de chanter cette chanson. Et je comprenais rien. Je me disais, pourquoi il fait une chanson sur Johnny Hallyday? Et je croyais que c'était une chanson sur Johnny. Je ne comprenais pas. Et puis voilà, un peu plus tard, en fait, pendant longtemps, je croyais que j'aimais pas la chanson française. Et Polnareff, comme d'autres, comme Gainsbourg ou Hardy d'ailleurs, ou plus tard Vassiliou, des chanteurs comme ça, ont été un peu des passeurs pour moi, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que Musicalement, je pouvais y trouver mon compte et pas uniquement dans les paroles.
Est-ce que vous êtes identifié au personnage ?
Non, parce que je trouve que
excentrique, mais il a osé faire des choses qui se faisaient pas à l'époque. Quoi,
oui, même. Mais de ce point de vue-là, on est dans une période où moi justement, je pense que c'est quelque chose qui lui a fait qui continue de le ronger. C'est-à-dire que tout d'un coup, on devient son propre personnage public. Et aujourd'hui encore. Je pense que certains artistes, pour passer, je pense que chez lui, ça s'est fait d'une façon beaucoup plus inconsciente et beaucoup plus empirique. Mais aujourd'hui, si vous faites une musique un peu en marge, que vous voulez passer chez Ruquier, il faut vous mettre une cigarette dans le nez comme Tellier, il faut mettre des crottes dans votre frigo comme Catherine. Il y a un côté galerie de frics aujourd'hui. Et les médias veulent aussi ce côté-là aberrant. Parce que l'artiste, c'est quelqu'un. Vous voyez, moi, je suis venu à votre émission, j'avais 5 minutes de retard parce que je trouvais pas mon passe Navigo. Bon, ça, c'est pas comme ça qu'on devient une star. Mais c'est peut-être comme ça qu'on reste un peu en bon état. Mais voilà, je pense qu'il s'est laissé dévorer par ce personnage.
Vous êtes allé à un concert de Michel Polnareff, Bertrand Burgala, pour finir ?
Non, jamais. Parce qu'à l'époque où il faisait les concerts, j'ai pas vu. Non.
Vous l'écoutez seul ?
J'écoute pas régulièrement parce que souvent les morceaux qui m'ont marqué, je m'en souviens très bien. Donc, mais j'ai beaucoup de plaisir à écouter Polnareff. Et je trouve qu'encore une fois, comme dirait François Valéry, aimons-nous vivants, il faut aimer les musiciens, les artistes et puis tout le monde quand les gens sont en vie. Et je trouve que quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un bon musicien de grande qualité comme Polnareff, je trouve qu'il faut être affectueux, avoir ce rapport affectif quand les gens peuvent encore faire des choses et l'encourager à continuer à faire de la musique.
Merci d'être passé ce matin, Bertrand Burgala.
Je serai pendu demain. Ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin. On donnait une fête dans le château. Dans le château de Laz, le plus bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamants, rubis, topazes et blanches robes longues cachées dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé.